Badinter l'a très bien dit ce matin. Le problème numéro un, ce n'est pas la prison, c'est la misère sociale. Ah, la misère, c'est une arme terriblement efficace pour le capitalisme. Hier, dans un temps de poisson, Hervé nous a annoncé que dans une certaine ville, c'est la sécurité qui avait le plus d'emplois. Tout comme au Moyen-Âge, les bourgeois veulent se protéger. La misère, reléguée par les médias, elle est voulue en haut de l'échelle, à l'OMC, au FMI, dans ce traité européen. Elle nous met à genoux, elle nous encourage dans l'individualisme, dans l'indifférence. Elle flatte notre égoïsme, notre nationalisme. Elle fait de nous des esclaves. Réveillons-nous, Marie-Paul de Villejuif. Au revoir.
Voilà, bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs. Je voudrais vous rappeler la petite histoire que vous devez connaître tous, l'histoire du gars qui tombe du cinquième étage et qui à chaque étage passé dit « jusque-là tout va bien ». C'est ce que nous vivons en ce moment. L'avion du capitalisme largue des milliers de travailleurs, 300 000 prévus pour les mois à venir, ces travailleurs qui sont une charge trop lourde en temps de crise, et ceci malgré les énormes profits antérieurs, bien sûr. Les Antillais ont ouvert le parachute et la voie aussi. Allons-nous nous écraser bêtement? Tout cela dépend de nous. Allez, au revoir et bon courage.
Bonjour, là-bas si j'y suis, je suis un modeste auditeur qui vient réagir à la suite des propos de monsieur le préfet de la Guadeloupe. Je croyais que le préfet était un représentant de l'État, donc quelqu'un qui devrait être juste. L'égalité devrait être au contraire sa devise. Or, monsieur le préfet demande aux ouvriers et aux LKP de reprendre le travail sans rien avoir de signé, alors qu'il n'a jamais demandé au CNPF de pouvoir assister, participer aux réunions et de signer le protocole qui a été mis en place. Alors, il devrait commencer par demander au CNPF de signer et ensuite d'obliger à ce moment-là le LKP à reprendre le travail. Un petit salut du Morbihan. Merci.
Bonjour, revoici le journal parlé du CAO, le comité anti-olympique de Grenoble. Dans deux semaines, les autorités olympiques désigneront la ville française candidate à l'organisation des JO d'hiver de 2018 et choisiront entre Annecy, Grenoble, Nice et Pelvoux. Dans ces quatre villes, les opposants au cirque olympique s'unissent pour affirmer leur refus solidaire et manifesteront le même jour, ce mercredi 4 mars. À Grenoble, le comité anti-olympique vous appelle tous à une déambulation anti-olympique pour manifester une nouvelle fois notre opposition à ces jeux qui serviront de bulldozer à de multiples malfaisances économiques, sociales, écologiques et humaines. Rendez-vous ce mercredi 4 mars à 17h45, place Félix Poulain à Grenoble, avec vos déguisements, tambours et sifflets. Toutes les informations sont sur le site cao38.eu.org. Je répète, cao38.eu.org. Et n'oubliez pas, moins vite, moins haut, moins fort. À mercredi.
Bonjour à tous, un petit message des étudiants nantais. On est actuellement 200 sur le périph' intérieur de Nantes. Donc nous sommes mardi matin et il est 7h30. Bonne journée à tous.
Salut Mermet, salut les AMG. Ce mercredi aura lieu à Mété, le repère d'Annecy. Philippe nous parlera, autour de son expérience personnelle, de l'état de la santé en France. On reparlera aussi du film de Gilles Perret, Walter, retour en résistance, qui agite le landerneau politique savoyard, puisqu'il montre enfin, tel qu'en lui-même, notre député président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Tiens, Mermet, va voir. Il existe un site, Walter, comme le prénom, retour en résistance, tout attaché sans accent, .com. Ça brasse aussi chez les réacs de Haute-Savoie. Pour le repère, ça se passe demain soir à 19h au bar Le Dersim à Mété. Venez nombreux, qu'on se le dise et répète.
Je suis Michel Roulet, je suis métropolitain et en Guadeloupe depuis bientôt 46 ans. Je viens d'écouter l'émission de M. Mermet du 2 mars sur la Guadeloupe. Je suis outré par les propos tenus par les différents interlocuteurs et cautionné par M. Mermet sur une chaîne du service public français, en principe qui n'est pas une chaîne indépendantiste, ni raciste, ni comme il en existe. Le comble a été d'entendre M. Mermet demander pourquoi les Noirs n'avaient pas encore jeté dehors les Blancs. J'espère que M. Mermet sera sanctionné par sa chaîne, par la direction de sa chaîne, et même interdit de parole. Merci.
Oui, mais Michel, il y a un malentendu. Je ne sais pas s'il y a des distorsions entre la Guadeloupe et Paris. Mais c'est pas du tout ce dont nous avons parlé hier, cher auditeur, cher Michel. Il s'agissait en fait des grands propriétaires qui étaient visés essentiellement, les Becquets, qui sont, je vous le rappelle, descendants des grandes familles esclavagistes et qui tiennent l'essentiel de l'économie de la Martinique et de la Guadeloupe. Ceux qui s'opposent, comme vous, probablement aux revendications du LKP, depuis le début, font croire qu'il s'agit d'un mouvement indépendantiste et raciste anti-blanc. Alors, Elie Domota, qui est le leader du LKP que nous avons interviewé, s'est clairement exprimé à ce sujet dans l'émission du mercredi 25 février, que vous pouvez réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, et il s'exprime très clairement sur la question de l'indépendance. Et quant au racisme anti-blanc, nous avons diffusé des échos de notre rencontre avec les AMG, les auditeurs modestes et géniaux de Guadeloupe, qui étaient environ 200, dont beaucoup sont des hexagonaux, on a dit ça en plaisanterie, les hexagonaux, et ils soutiennent le mouvement et ne souffrent visiblement d'aucun racisme anti-blanc. Cet argument du racisme est tout simplement, cher Michel, fallacieux. Je le répète, c'est très clairement les Becquets, descendants des esclavagistes et qui aujourd'hui détiennent le pouvoir économique, qui étaient visés. Voilà l'extrait que vous avez évoqué. Pourquoi ces gens en veulent toujours plus?
Eh bien, je ne sais pas. Je suppose que c'est comme partout. Plus on en a, on dit plus le diable en a, plus le diable veut, c'est tout, quoi. Eh bien, c'est ça.
Plus le diable en a, plus le diable en a.
Je suppose que c'est ça.
Malgré tout, comment vous expliquez l'un et l'autre, comment ces gars qui sont arrivés ici en 1640, par là, comment est-ce qu'on sont toujours là? On est en 2009, ça a commencé en 1635?
Oui, 1635.
Comment t'expliques qu'ils sont toujours là? Et vous n'avez toujours pas réussi à les foutre dehors?
Mais non, parce qu'ils sont protégés par le gouvernement français, c'est tout, c'est simple. Parce que ce sont des générations aux générations, ils sont protégés.
Voilà, c'est l'extrait de l'émission donc d'hier. Aujourd'hui, on se tourne vers une page ancienne de l'histoire de la Guadeloupe. Mai 1967. Alors quand on dit mai 1967, on dit ah non, vous vous trompez, c'est mai 68, bien évidemment. Eh ben non, en Guadeloupe, c'est mai 67. On va évoquer ces journées du 25 et 26 mai 1967 qui sont deux journées portées disparues, deux pages blanches dans l'histoire de ce pays. Les massacres qui ont été perpétrés par les services d'ordre français contre des ouvriers et des manifestants guadeloupéens. C'est une histoire qui est peu ou pas du tout connue ici, dans l'Hexagone, qui est mieux connue, beaucoup mieux connue en Guadeloupe, encore qu'il y ait eu une sorte de période d'enfouissement de presque une génération avant que cette histoire ne remonte et n'affleure dans les mémoires. Évidemment que c'est très très présent aujourd'hui tout au cours de ces événements, de ces grèves et des négociations. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel. Je trouve que M. Filion ne manque pas d'air lorsqu'il demande aux salariés de Guadeloupe et de Martinique et à tous les Français de faire preuve de civisme. Est-ce qu'il a demandé aux banques de faire preuve de civisme alors qu'il les renflouait à milliards? Est-ce qu'il a demandé aux actionnaires qui n'ont pas hésité à afficher des millions de personnes sur le carreau? Il en fait peut-être partie d'ailleurs. Et aussi, a-t-il demandé à M. Sarkozy qui s'est augmenté de 170%? A-t-il demandé aux ministres qui ont été augmentés par Raffarin de 77%? Alors que lui-même disait que la France était en faillite. Alors ça suffit, messieurs, ça suffit. Regardez-vous et laissez-nous travailler.
Bonjour, le repère de grâce, c'est demain, mercredi 4 mars, à partir de 18h, au Tibermouton, 28 avenue Mathias Duval. Demain, l'appel des appels sera abordé. Question de justice, hôpitaux, éducation nationale, etc. L'occasion aussi de revenir sur les manifestes des poètes guadeloupéens et antillais qui, a priori, nous concernent aussi. L'occasion de voir un petit canon, l'occasion de discuter de l'appel des objecteurs de croissance à créer des listes électorales, enfin bref, l'occasion de se retrouver. Pour plus d'infos, Estelle au 04 93 40 01 58.
Bonjour, c'est avec une joie immense que je retrouve Stéphane Guillon tous les matins. En fait, je suis dans ma voiture pour aller à mon boulot et il me met la pêche pour la journée. Alors, pourvu que c'est dur. Voilà, ciao.
Ouais, salut à tous. Il y a quelques années, j'ai passé plusieurs mois au Costa Rica. Et sur place, j'avais discuté avec des gens qui avaient travaillé dans la banane, qui avaient rencontré à peu près le même problème que la Martinique et la Guadeloupe, à savoir qu'un produit qu'appelait phytosanitaire, parce que ça vient phytosanitaire, en fin de compte, c'est de la merde, était interdit aux États-Unis et donc ils ont écoulé les stocks au Costa Rica. Donc je pense pas que ce soit le même produit, enfin c'est le même type de merde. Ça avait également des effets très nocifs sur les gens qui l'employaient dans les cultures des bananiers. Et en plus, ce qui était assez pervers, c'est que les gens qui voulaient intenter un procès pour essayer de récupérer 4 ronds avant de mourir d'un cancer, eh ben, ils n'étaient pas soignés. Et ceux qui voulaient être soignés, ils signaient une décharge comme quoi il n'y aurait pas de poursuite vis-à-vis des multinationales américaines qui produisent de la banane, notamment au Costa Rica. Bon, pour ce qui concerne les repères, ben, il y en a un demain soir, mercredi, à Salerne, dans le Var. Et puis le même soir, il y en a un à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Donc vous pouvez aller d'un coup, à Salerne, c'est à l'endroit, et à Grasse, c'est à la Cybermoutonne. Pour ce qui concerne Julien Coupa, ça fait demain 110 jours qu'il est en prison. Ciao, vive, portez-vous bien.
Bonjour Smaïn, monsieur urgentiste à Montbéliard. L'hôpital de Belfort-Montbéliard est en crise depuis plusieurs mois et la situation demeure alarmante. Déficit budgétaire colossal, insuffisance chronique de lits d'hospitalisation, manque d'effectifs, démotivation du personnel médical et paramédical, d'où des conditions de travail médiocres et une dégradation de la qualité de prise en charge des patients que nous accueillons, notamment aux urgences. La loi Hôpital Santé, Patients et Territoires, présentée par Madame Bachelot et actuellement en discussion au Parlement, ne va certainement pas améliorer notre situation, car c'est une loi qui va transformer l'hôpital en véritable entreprise privée, fonctionnant donc selon une logique libérale et mercantile. Qu'en sera-t-il donc alors de nous, cette mission de service public hospitalier auquel nous sommes tous très attachés? J'invite tous les AMG de Belfort, Montbéliard et de leurs environs à venir manifester avec le personnel hospitalier le jeudi 5 mars, journée hôpital mort. Deux rassemblements sont prévus avant le départ des manifs, le matin à 10h à Belfort devant l'hôpital et l'après-midi à Montbéliard à 17h, également devant l'hôpital. Prévoyez des brassards noirs et des cierges, car nous allons enterrer cérémonieusement la loi Bachelot. Il faut défendre l'hôpital public qui est bien malade. Terminé.
Bonjour, c'est Christine de Nîmes. J'appelle pour laisser un message pour les auditeurs modestes et géniaux de Nîmes et des environs, pour leur dire donc que nous avons bien un repère demain, mercredi, à partir de 19h30, au café La Brasserie. J'espère que vous viendrez nombreux. Au revoir.
Nous avions répété, nous n'y croirons en toi la place que nous préférons là. On nous n'y allait en silence. Trois générations à sacrifier pour nous garder l'horizon, pour nous construire demain. Mort 1802. Mort 1967. Et Jacques Bidon qui mort en 2009.
Mémorial dédié à nos ancêtres fusillés ici le 26 mai 1802, au lendemain de la bataille de Bainbridge, pour avoir voulu sauvegarder une société guadeloupéenne multiraciale libre, et au souvenir des victimes de la révolte ouvrière et syndicale réprimée dans le sang le 26 et 27 mai 1967.
À génération à ça qui tombait, ici là même, en mai 67.
Et un premier chiffre, qui est le chiffre de la préfecture, qui est publié dès le samedi, fait état de 8 morts. Personne n'y croit.
Camarades, nous pas continuer marcher en silence.
Et nous arrivions juste à côté du boulevard, et brusquement, on voit arriver des camions qui tirent.
Il y a donc un certain nombre de CRS qui débarquent et qui tirent sur la foule.
Donc à continuer, tournez à l'entour à la place.
Une balle en pleine tête, Omertidas tombe.
Ça, tu vises, c'est ça qui tombe.
C'est vrai que depuis 67, j'ai dans la tête ce bruit de fusil.
À ça qui tombait en mai 1967.
Et c'est vrai que toute la période qui va jusqu'à il y a pas très longtemps, jusqu'à une dizaine d'années, c'était un sujet tabou. Même les gens qui connaissaient, qui avaient perdu des parents, préféraient ne pas en parler.
Ça, c'est ça qui tombait. En octobre 1801 et 1802, ça, c'est aussi. À ça qui tombait en mai 1976.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ben, si j'y suis avec Antoine Chao, quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail.
Flight number 2, arriving from New
York. Camarades, on va marcher en silence. On va marcher pour matériel à Lyonnage. Lyonnage a trois générations sacrifices. Sacrifice à ça qui tombait entre octobre 1801 et mai 1802. À génération à ça qui tombait ici là même, en mai 67. Et aussi à Jacques Pinault qui tombait en 2009. C'est pour nous Lyonnais.
Qu'est-ce que vous dites, madame?
Vous voyez la fresque là-bas? Sur le mur là-bas. Vous devriez aller la voir de près, parce que c'est une reconstitution en forme de bas-relief des événements de mai 67, quand ils ont tiré sur le peuple et qu'un des nôtres et puis plein d'autres personnes aussi également ont été tués.
C'est pour ça que le camarade là faisait son discours avec son mégaphone pour expliquer aux manifestants ce qui s'était passé là.
Il y avait une grève de travailleurs, les camarades marchaient comme cela, ils revendiquaient donc des augmentations. Et comme on leur a demandé de se disperser, ils n'ont pas accepté. Mais ils n'avaient pas d'armes et on en a tué beaucoup, monsieur. Et si ma mère qui à l'époque n'habitait pas par ici, elle habitait sur la zone qu'on appelle le boulevard, elle ne s'était pas cachée derrière un fût, je perdais ma mère qui n'avait rien à voir dans l'histoire, elle revenait du travail.
Quand les nègres auront faim, ils reprendront le travail. Cette phrase a-t-elle été, oui ou non, prononcée par le représentant du patronat, Monsieur Brizard, à l'époque, en 1967, on n'en est pas sûr. Mais la phrase a fait un malheur, a fait beaucoup de malheur, et un malheur longtemps enfoui dans la mémoire collective en Guadeloupe, en tout cas absolument enfoui et même absente de la mémoire collective française, ces journées de mai 1967, 26 et 27 mai 1967. Évidemment que les événements actuels en Guadeloupe, et notamment la mort du syndicaliste Jacques Binot, qui n'a pas été tué, du moins dans l'état où en sont, où en est l'enquête aujourd'hui par les forces de police, mais tout ça ne manque pas d'évoquer toutes les luttes précédentes, tous les conflits précédents dans ce pays depuis, vous entendez, depuis 1802. Mais 1967, c'est très présent et très fort dans les esprits ces jours-ci. Ça l'a été évidemment lors des commémorations de 2007, de 97, mais auparavant, comme le dit Julien Merion, c'était enfoui. Ça fait partie de ces pages comme la journée disparue du 17 octobre 1961 à Paris. Ces pages qui longtemps dorment et semblent en voie de disparition, et soudain quelque chose les ramène à la surface. Le 26 mai 1967, à l'occasion d'une manifestation des ouvriers du bâtiment en grève, l'ordre a été donné de tirer sur la foule des manifestants. manifestants. Et le lendemain, les lycéens de Pointe-à-Pitre descendent dans la rue pour soutenir la lutte des ouvriers. Et de nouveau, ce jour-là, les forces de l'ordre font usage de leurs armes. En 1983, on apprendra de la bouche même du ministre de la France d'Outre-mer de l'époque que, selon les archives, il y aurait eu 85 morts. C'est l'état actuel des connaissances qu'on a quant au nombre de victimes, les archives n'étant pas pour l'instant accessibles. Je crois qu'elles seront ouvertes, en 2017, pas avant. En tout cas, ça a été un drame terrible. 1967, c'est le général de Gaulle qui est au pouvoir, je le rappelle pour les jeunes générations, et 1967, c'est 5 ans après l'indépendance de l'Algérie et les indépendances, c'est-à-dire les indépendances de l'Afrique noire et auparavant de Madagascar, de l'Asie et de toutes nos belles colonies que nous avons perdues. La Guadeloupe et la Martinique sont départements français depuis 1946 et auparavant étaient des colonies. Donc il est normal que les habitants de ces îles, de ces pays soient concernés, se sentent concernés par, par l'indépendance. Alors il y aura deux plans. Il y aura cette lutte des ouvriers du bâtiment. À cette époque, on construit très fort à Pointe-à-Pitre, donc il y a beaucoup d'ouvriers dans le bâtiment. C'est eux qui manifestent dans ces journées pour une augmentation de 2,5% de leur salaire. Mais il y a aussi, avec et derrière, et en même temps, la revendication nationaliste, une indépendance dont le général de Gaulle ne veut pas, ni lui, ni son gouvernement, ce qui explique probablement en grande partie la violence de cette répression. Voilà, c'est notre sujet jusqu'à 16h. 26-27 mai 1967, Pointe-à-Pitre.
En crier à moi, en crier à l'assassin, en crier bourreau. Les jeunes déclarent la guerre à la Guadeloupe.
La fresque, alors elle est là, devant le port, avec le port pour décor, les grues, les bâtiments. Là, il y a cette fresque. D'ici, stupéfait et pétrifié, j'ai tout vu ce vendredi 26 mai 1967. Et qui parle, c'est le mur témoin. Donc voilà, on est devant le mur témoin. C'est à la fois une peinture et un bas-relief qui a été donc réalisé grâce à une souscription populaire et érigé ici en 2007. Une juste mémoire, parce qu'il n'est pas de devoir de mémoire sans connaissance des faits. Je veux savoir pourquoi, 40 ans après, tout un pan de notre histoire demeure méconnu. En attendant, l'honneur et respect à la jeunesse fauchée, au peuple agressé et blessé, aux travailleurs maltraités, aux justes qui sont tombés, aux morts sans sépulture, à l'avenir qui reste à construire. On voit la police, ils étaient en short comme ça?
Oui, ils étaient en short, c'est les CRS qui étaient...
Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et qui sont en train courageusement de tirer sur les manifestants, le peuple. Là, ah oui, on a représenté les conques de Lamby, donc qui étaient les pavés, l'équivalent des pavés dont se servaient les manifestants.
Cette personne, enfin vous voyez, là, elle est censée représenter Jacques Nestor.
Nestor, là, qui est en train de tomber en arrière avec la poitrine couverte de sang.
Mais évidemment, ce qui est frappant toujours dans ces histoires, c'est que c'est 40 ans après, 30 ans, 40 ans, comme s'il fallait toujours une génération pour digérer. Hein,
oui, oui, c'est vrai.
Comme pour le 17 octobre 61 à Paris, c'est la même chose. Il a fallu attendre 30 ans pour que ça sorte vraiment dans l'opinion. Et...
Ah oui.
Ouais, c'est très touchant. Hein. Remue mémoire, évidemment, ce qui se passe actuellement en Guadeloupe, remue la mémoire. Ou bien est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est la mémoire qui remue cette époque, ces jours-ci? C'est possible, c'est bien possible, c'est même très, très possible. Il y a une référence, vous allez voir, de ces luttes les unes par rapport aux autres. On est avec Julien Mérion, qui est politologue, qui est professeur à l'Université des Antilles-Guyane, et qui va être notre guide pour raconter ce que furent ces journées de mai 1967 en Guadeloupe et dans cette ville de Pointe-à-Pitre. J'espère qu'on aura beaucoup de reportages et de sujets ces jours-ci par les équipes de, notamment de télé qui sont là-bas, parce que c'est un sujet très très important. Et avec l'équipe de là-bas, si j'y suis, comme d'habitude, on a cherché les archives sonores de l'époque. On en a très très peu trouvé. De la même façon, on trouve très peu d'archives sur ce sujet. J'espère que, voilà, les reportages actuels seront une occasion de faire connaître un peu mieux ces jours terribles et cette mémoire guadeloupéenne.
Sacrifice à ça qui tombait, à génération à ça qui tombait, ici là même, en mai 67.
Donc tout se passait là. Et les événements eux-mêmes se sont produits juste là, sur la place de la Victoire. Les 100 chaînes, vous les avez vues?
Oui.
100 chaînes.
C'est quoi les 100 chaînes?
Eh bien, c'est un monument qui a été érigé en mémoire des victimes de mai 67. C'est ce petit monument que vous voyez là. Alors,
là, c'est des chaînes. Ah, voilà chaînes. Le bruit des
on
chaînes.
On va y aller. 100 chaînes, S-A-N-G. 100 chiffres et 100 S-A-N-S. Une rythmique sous le 100.
Mémorial dédié à nos ancêtres fusillés ici le 26 mai 1802. Au lendemain de la bataille de Bainbridge, pour avoir voulu sauvegarder une société guadeloupéenne multiraciale libre, née de l'abolition de l'esclavage de 1793, et au souvenir des victimes de la révolte ouvrière et syndicale réprimée dans le sang le 26 et 27 mai 1967. Et ça, voilà, c'est les chaînes. Là, c'est bon, il y a donc 100 chaînes.
Voilà, il y en a 100.
Qui s'enchaînent.
Voilà, qui s'enchaînent.
D'accord. Et derrière, on a le petit marché qui reprend un peu son activité.
Si vous voulez, à l'époque, ce marché à l'époque était un marché réservé exclusivement aux poissons. Mais c'est qu'à l'époque, il y avait un coquillage chez nous qu'on appelle le lambi.
Oui.
Et donc les pêcheurs, quand ils arrivaient, ils retiraient de la conque le coquillage, c'est la poulpe, ce qu'on mangeait, et s'entassaient là des conques de lambi. Et c'est donc ces conques de lambi que les ouvriers sont allés chercher comme arme, si vous voulez, lorsqu'on a commencé à tirer pour riposter vis-à-vis des CRS. Donc, c'était une bataille entre, d'une part, bon, les fusils et les conques de lambi.
C'est le pavé de la Guadeloupe.
Voilà, c'est le pavé de la Guadeloupe.
Je voulais signaler au début de ce journal graves incidents en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. Un mois après les incidents de Basse-Terre, ceux de Pointe-à-Pitre, qui semblent plus violents, confirment la profonde dégradation politique et sociale dans ce département. Nous avons pu joindre l'un de nos correspondants à Fort-de-France, à la Martinique, Marcel Boza.
En Guadeloupe, un certain nombre d'incidents assez graves se sont produits durant cette nuit. Ces incidents, qui auraient débuté en fin de soirée, auraient éclaté à la suite d'une grève de certaines catégories de personnel du bâtiment. Erreurs sérieuses ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre. Cette agitation, qui se serait limité à certains quartiers de Pointe-à-Pitre, pourrait entraîner le pillage de quelques magasins. D'autre part, un certain nombre de voitures ont été lapidées. En l'absence de renseignements précis, les communications restant très difficiles avec la Guadeloupe, il est impossible d'établir un bilan exact. Il est vraisemblable que la manifestation a fait un certain nombre de blessés graves. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu quelques tués, mais toute évaluation pessimiste serait pour l'instant. prématuré.
Alors, les négociations avaient lieu ici, là, qui était à l'époque la Chambre de commerce et d'industrie, qui se trouvait là en 1967, pour une revendication de l'ordre de 2,5%.
Ah, mais ça rappelle quelque chose, ça.
Ah ouais.
Tout ce que vous êtes en train de vivre, voilà, voilà. Il y a un lieu de négociation, voilà. C'est pas 2,5%, mais c'est 200 euros.
Voilà, ça. L'histoire se répète. Alors, c'était une grève du bâtiment. Ah, essentiellement. Et c'est à l'époque où tous les grands chantiers se développaient sous Pointe-à-Pitre, ce qui veut dire que, bon, les ouvriers du bâtiment étaient extrêmement nombreux. Et on est dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une surexploitation extraordinaire. Bon, à l'époque, il n'y a pas le SMIC, on n'a pas le SMIC encore, qui n'est pas l'équivalent de ce qui est touché en France métropolitaine. Et bien évidemment, c'est l'époque aussi où l'industrie sucrière périclite littéralement, donc où un nombre important de gens venant des campagnes affluent sur Pointe-à-Pitre et l'agglomération pointoise, parce qu'il y a le boom du bâtiment. Et donc, un certain nombre de grandes sociétés mettent en place, si vous voulez, des constructions et dès lors emploient de nombreuses personnes.
Des grandes sociétés locales ou hexagonales?
Détenues essentiellement à l'époque par des blancs pays, Bravaz, etc.
Des blancs pays, c'est-à-dire les béquilles de la Guadeloupe.
Les béquilles de la Guadeloupe, mais aussi quelques Italiens qui se sont installés ici et de grosses sociétés métropolitaines. C'est ça, à l'époque, qui participe à cette espèce de boom du bâtiment. Et donc tout ceci.
Les ouvriers sont syndiqués ou pas?
Oui, ils sont syndiqués à l'époque dans un syndicat qui s'appelle Fraternité Ouvrière, affilié à la CGTG.
La CGT Guadeloupe.
Et donc c'est ce syndicat qui mène les négociations, qui mène la lutte
pour obtenir 2,5% d'augmentation, alors que les gars n'avaient pas le SMIC.
Voilà, ils n'ont pas encore le SMIC. Non. Alors ça se passe par ici, je vous dis, et il y a une foule masse qui est énorme. Il y avait environ 1000 personnes venues soutenir la délégation qui discute, bien évidemment.
C'est exactement ce qu'on a vécu hier soir.
Ça, c'est les pratiques ici.
le peuple vient soutenir la délégation.
Ça a toujours été comme ça depuis Légitimus, c'est-à-dire depuis les années 1890. Alors, Légitimus, c'est cette première grande figure politique de la Guadeloupe qui crée en même temps les syndicats et en même temps un parti politique et qui fait que bon la Guadeloupe est résolument à gauche parce que lui, dès l'époque, il se situe dans une orientation socialiste. Et donc, il y a cette tradition syndicale qui est une tradition de mouvement de masse, de foule extrêmement importante, bon, qu'on verra en œuvre bon, au début du siècle, mais surtout en 1930. Il y a une grande grève qui va paralyser pendant 2 mois l'industrie sucrière. Et ça, c'est extrêmement important. Elle se saute par 36 morts. C'était comme ça. En 1952, au Moule, idem, grève dans l'industrie sucrière, ça se solde par 8 morts. Et il y a une grève dont on ne parle pas beaucoup en ce moment, mais qui a eu lieu en 1953. Pendant plus de 2 mois, la Guadeloupe entière et la Martinique ont été en grève pour que les fonctionnaires obtiennent les 40% de vie chère.
Ah.
Plus de deux mois de grève. Donc, si vous voulez, les grèves qui durent, ce n'est pas que ça fait partie de la tradition locale, mais disons qu'il y a une histoire, si vous voulez, il y a une tradition syndicale.
Une tradition de la grève longue.
Qui dure.
À génération, ça qui tombait, ici là même, en mai 67, camarades, on va continuer marcher en silence.
Et je t'ai déclaré la guerre à la Guadeloupe.
26 et 27 mai 1967 à Pointe-à-Pitre, on évoque ces journées terribles qui évidemment font écho à ce qui se passe actuellement en Guadeloupe. Alors nombreux sont les témoins évidemment de cette époque. On a commencé avec Julien Merion qui est politologue. Voici Paul Tomich, qui à l'époque était dirigeant syndical et militant au Parti communiste français.
Il y avait trois dirigeants de la CGT qui étaient à l'intérieur de la chambre de commerce à l'époque, en négociation avec le patronat du bâtiment. Et moi, avec quelques camarades, nous étions à l'encadrement. J'ai fait mon travail de militant et de dirigeant syndical en tenant la foule à distance des policiers qui étaient là, et surtout pour qu'il n'y ait pas de bruit à l'intérieur, parce que bon, les bruits, les chuchotements parvenaient jusqu'aux négociateurs, donc il fallait quand même calmer les gens, et ça venait de commencer, c'est-à-dire ça n'a pas traîné pendant 8 jours, non, les négociations ont commencé le 25 mai, et le 26 au soir, bon, eh bien, c'est vrai qu'avec l'attente des résultats des négociations, la pression montait. Donc les jeunes ont commencé à lancer quelques cailloux sur les forces de l'ordre qui étaient venues. Bien entendu, la riposte n'a pas été à la hauteur, disons, de ce qu'on aurait pu appeler l'attaque des jeunes. C'était disproportionné.
Qui lançait des coquillages, nous a-t-on dit, non ?
Il y a des conques de l'ambi. Ouais. Faute de moyens, bon, c'était, disons, une arme d'autodéfense. Bref, il y a eu le zèle du commissaire Canales à l'époque, et ils ont commencé à demander aux gens, disons, aux gens d'une manière générale, de s'en aller, de quitter les lieux. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé aux jeunes qui étaient là de ne pas rester, puisque la police avait commencé à bousculer plus ou moins les policiers nationaux, mais de couleur noire. Ils demandaient aux jeunes de s'en aller, mais de manière un peu brutale. Et j'avais un copain dans la police nationale à cette époque-là qui m'a dit « Mon coiffeur, mon chier là, faut qu'on avait ces bougaoula là. Foule camp de là avec tes gus parce que ça va barder. » Alors, j'ai pris sur moi de dire à ces jeunes-là, effectivement, quittons les lieux, sortons de là. Et il y avait parmi ces jeunes-là un élément que je voyais assez régulièrement dans les assemblées générales. Pour moi, ce n'était pas un ouvrier du bâtiment. Et lui, il était là, cet après-midi-là, et il m'a dit que c'est le genre de bonhomme comme moi qui empêche à la révolution de se faire. Moi, je ne le connaissais pas, mais j'imagine que les gendarmes ont vu son attitude, qu'il y avait certainement aussi la part de flicaillerie, c'est-à-dire de dénonciation, d'accord, on le connaissait par ailleurs, mais moi je ne le connaissais pas. Donc dans les échanges de conques, de cailloux et de tirs à balles, on l'a abattu. Il s'agissait de Jacques Nestor.
Jacques Nestor, c'est évidemment le héros, la figure de ces journées de mai 67. Il était un militant, à la fois un militant syndical et un militant du GONG, du G-O-N-G, le groupe d'organisation nationaliste de la Guadeloupe, qui à l'époque, comme son nom l'indique, militait pour l'indépendance de la Guadeloupe. Aujourd'hui, la question de l'indépendance est beaucoup plus, beaucoup moins vivace qu'à l'époque. On dit que pas plus de 3-4% des habitants de Guadeloupe sont partisans de l'indépendance, mais à l'époque, c'était un mouvement très fort. C'est cet homme-là qui est tué en premier d'une balle dans le dos. Alors évidemment, ça va déclencher la réaction de la foule, des habitants, des jeunes notamment, des jeunes qui se précipitent pour essayer de trouver des armes. Alors, avaient-ils des armes ? En ont-ils trouvé dans les armureries ? Les versions varient. Paul Tomich.
quand les forces de l'ordre se sont mises à déambuler et à tirer à tout va dans les rues, il y avait des jeunes qui avaient dévalisé l'armurerie de Boyer. Et alors, bien entendu, avec des pif-pof, avec tout ce qu'ils avaient sous la main, mais sans aucune précaution, sans connaître quoi que ce soit d'une arme. Ça faisait pif-pof, bon, ben, ils tuaient. Et ces jeunes-là, quand ils ont été poursuivis par les forces de l'ordre dans les rues de Pointe-à-Pitre, il se trouvait des gens encore courageux, debout sur leurs fenêtres, regardant un peu le théâtre sanglant de ce soir-là, qui étaient interrogés par les gendarmes, qui disaient « Vous ne les avez pas vus, où sont-ils passés ?» Les petits jeunes se cachaient sous des voitures. Et ces gens-là disaient toujours qu'ils ont fait par là. Ils ont fait par là, mais toujours dans le sens contraire de là où ils auraient pu se trouver. D'accord ? Ça, il faut retenir cela. Et ce n'est pas des jeunes qui cautionnaient cela, c'était des personnes déjà d'âge. La poursuite infernale a continué. Alors, ce qu'il y a eu, c'est que les jeunes, malgré tout, prenant des risques impossibles, avaient trouvé sur leur route, en remontant vers le vieux Bois-Abîme, des buses de toutes dimensions et les ont mis de travers sur la chaussée. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de me sauver parce que des copains sortant, dont Barfleur, sortant de la préfecture, m'ont dit « Tom, il faut quitter les lieux. » Je calmais la foule, je faisais remonter la foule sur les boulevards là, près du centre d'échange aujourd'hui. Je faisais remonter toujours la foule grossissante. Et Barfleur est venu me dire « Tom, il faut quitter les lieux. Il faut quitter les lieux. Le préfet a dit qu'il faut te prendre ce soir. » Oh, il y avait déjà sur les ondes d'un radio amateur, un ami à nous, qui avait entendu que l'ordre avait été donné de capturer mort ou vif le conducteur de l'Opel 77MV 971.
C'était votre voiture, ça?
C'était ma voiture.
Voilà, alors Paul Tomich va se cacher et puis finira par se rendre et il sera tout de suite emprisonné, il sera jugé avec d'autres et condamné à un an de prison. Les témoignages abondent hein, sur ces journées de 67 et abondent d'autant plus par les temps qui courent et les jours qui courent et les nuits qui courent actuellement en Guadeloupe. Là, on est devant le palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre et la foule attend pour se mettre en cortège et rendre hommage à Jacques Binot, le syndicaliste qui a été abattu. Et là, évidemment, il y a un écho entre ces événements de 67 et les jours et ces journées-là. C'est aujourd'hui, disons. Et là, on rencontre Pierre Luce.
J'étais exactement, j'avais 17 ans à l'époque, et j'étais avec quelqu'un qui s'appelait Omer Tidas. On allait voir un ami, médecin, docteur Osé, je m'en souviens très bien. Et nous ne savions pas qu'il y avait des manifestations. Nous avons traversé toute cette partie-là. Il devait aller récupérer sa voiture pour faire de l'essence. Et nous arrivions juste à côté du boulevard. Et brusquement, on voit arriver des chars.
Des chars?
On a tendance à parler de camions comme chars ici. Donc, des camions qui s'arrêtent pratiquement à notre hauteur et qui se mettent à tirer, qui tirent. Une balle en pleine tête. Omer Tidas tombe, je suis à côté de lui, il me tombe dessus. J'étais complètement, il y avait cette espèce de matière grasse dont on m'a indiqué après qui était le cerveau, partie de la cervelle, complètement couvert de sang, il est tombé sur moi. Pendant quelques secondes, je ne sais pas trop combien de temps ça a duré, je suis resté là, avec son sang sur moi. Je ne sais plus raconter ce qui s'est passé parce que j'ai comme une espèce de vide dans ma tête. Je sais que le corps bougeait énormément. Et il a été ainsi exécuté, simplement au hasard,
parce que manifestement, il ne savait même pas ce qui s'est passé. Il n'a pas eu le temps de voir venir, c'est lorsqu'il s'est retourné qu'il s'est rendu compte de ce qui s'est... Est-ce qu'il a eu le temps? J'en sais rien. Il n'est pas mort sous le coup, maintenant dit. Il semble qu'il serait mort à l'hôpital, au centre hospitalier. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je dis, lorsque vous m'avez posé la question au début, qu'est-ce que je fais ici? C'est parce que c'est vrai que depuis 67, j'ai dans la tête ce bruit de fusil que je n'ai pas complètement digéré, parce que j'ai comme une espèce de trou noir. C'est vrai aussi que c'est la première fois que je parle de cette affaire-là, parce que je n'ai jamais réussi véritablement à le dire. Mais compte tenu des événements de ces quelques jours qui viennent de se passer là, j'ai pris la décision, moi, un peu de me libérer de cela. C'est un peu comme une thérapie à la fois pour moi, mais aussi comme quelque chose que je dois à cette population-là, que de dire qu'il y a des exactions qui se sont produites cette année-là, que je ne souhaiterais pas que cela se reproduise de nouveau pour mon peuple. Voilà. Nous n'avons pas, à mon sens, en Guadeloupe, complètement digéré les problèmes liés à l'époque de la colonisation. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a en Guadeloupe et en Martinique, à cause sans doute de l'existence de ces béquets qui sont des anciens colons, qui avaient des esclaves sur ce territoire-là, on n'a pas complètement digéré cette histoire-là, parce que d'abord, ces personnes sont encore présentes, perpétuent des attitudes et des comportements qu'avaient leurs ancêtres, et à un certain moment, détiennent bien évidemment tous les pouvoirs. Et quand vous entendez parfois des propos xénophobes, et ils ont raison, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ne se mêlent pas, entre guillemets, avec cette population un peu bizarre. C'est vrai qu'il y a une situation particulière sur ces territoires. Et quand, en plus, il y a une sorte de domination de l'argent financière ou tout le reste, eh ben, tout cela fait qu'à un moment, il y a forcément quelque chose qui explose. Et puis, lorsque vous regardez les choses qui se passent, la population a le sentiment que jusqu'à présent, ces personnes ont bénéficié de leur attitude parce qu'il y a eu peut-être pas forcément la complicité de l'État, mais qu'il y a eu un comportement un peu de compréhension exagérée de la part de l'État, qui n'a peut-être pas, à un certain moment, réussi à aider ces populations-là à digérer cette période de la colonisation. Oui, alors on pose la question de dire, mais pourquoi est-ce que les Antillais en permanence parlent de racines? Pourquoi ils parlent de ça? Parce que on n'a pas tout à fait la possibilité d'oublier. Ce qui explique sans doute qu'on n'a pas le même rapport avec les populations européennes, celles qui viennent de France par exemple, on n'a pas le même rapport avec eux qu'avec les béquets qui sont sur place.
Il faut que je vous dise quand même que 2%,
c'était la revendication.
C'était la revendication des ouvriers du bâtiment. Et
le 2% 20, d'augmentation.
D'augmentation. Et deux jours après, ils ont obtenu 25% d'augmentation. Ils ont obtenu parce que l'administration s'est sentie quand même quelque part coupable de ce qui s'était produit. Mais ouais. Tout ce que nous avons fait à l'époque avec les autres organisations syndicales pour tenter d'avoir une unité avec la CGT, l'autre partie de la CGT, avec le mouvement nationaliste, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, bon, parce que chacun devait rester de son côté pour pouvoir faire mousser sa lessive.
D'accord? Donc contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas d'unité en 67.
Voilà. Aujourd'hui, eh bien, tout le monde est là. Et moi, ce que je souhaite pour le peuple guadeloupéen et surtout pour les travailleurs, c'est que cette unité perdure, parce qu'on ne gagne rien à diviser la population et à diviser les travailleurs, pourvu qu'ils en prennent conscience.
Voilà, Paul Tomich. Tourner la page, c'est très beau de tourner la page, mais il faut la lire avant de la tourner. C'est ce que font les Guadeloupéens depuis quelques années, mais quelques années seulement sur ces pages de mai 67. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On continuera demain. Pour l'instant, on est toujours avec le politologue Julien Mérion.
Toute la nuit du 26, donc le vendredi 26, on va avoir cette espèce de guérilla urbaine qui se poursuit dans les quartiers populaires un peu partout, à telle enseigne que dans une veillée mortuaire, un type qui aura été tué l'après-midi, qui s'appelle Tarek, un jeune, qui était connu d'ailleurs, qui jouait au foot, et dans sa veillée mortuaire, il y a donc un certain nombre de CRS qui débarquent et qui tirent sur la foule. Dans une veillée
mortuaire. Dans la veillée
mortuaire. Oui. Mais c'était. Alors, à l'époque,
qui était le préfet,
Monsieur Boulotte.
Monsieur Boulotte.
Alors,
le ministre de l'Intérieur, qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque?
Raymond Marcellin. Ministre de l'Intérieur. Et en 1967, le Premier ministre, c'est encore Pompidou.
Et le président de la République, c'est le général de Gaulle.
Général de Gaulle, 1967.
Donc, ça, évidemment, vous ne manquez pas, vous, les Guadeloupéens, de faire un lien entre 67 et 68.
Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr, 68, c'est nous, quoi.
Voilà. On vous a aidé. On vous a aidé. Il y a donc.
Il faudrait pas que ça se reproduise cette fois-ci. Hein.
C'est parti pour. En tous les cas.
Sacrifice à ça qui tombait. À génération à ça qui tombait. Ici là même. En 1967.
Quelles sont les suites de ça dans l'inconscient collectif? Ça va être une référence pour tous? Oh, quelque chose qu'on laisserait.
C'est plus compliqué que cela. C'est plus compliqué que cela. Il y a eu une première période d'enfouissement. Alors moi, quand j'interroge les gens, il y a deux raisons. Il y a eu la peur. Il y a eu une véritable peur. Il y a eu une peur panique après 1967. Les gens pensaient qu'ils pouvaient être poursuivis. Et je pense que ça a réveillé dans l'inconscient collectif un certain nombre de vieilles histoires, de poursuites, de chiens, etc., qui sont liés à l'esclavage ou à la lutte post-esclavagiste. Et ça, ça a réveillé ces éléments-là. Et c'est vrai que toute la période qui va jusqu'à il y a pas très longtemps, jusqu'à une dizaine d'années, c'était un sujet tabou. Même les gens qui connaissaient, qui avaient perdu des parents, préféraient ne pas en parler. C'est-à-dire, outre la peur, il y a le traumatisme et ça provoque des chocs psychiques. Moi, j'ai rencontré, je vous dis, il n'y a pas très longtemps, M. Paul Angèle. Il avait 14 ans à l'époque. Le père est ouvrier du bâtiment. Le père part le matin, il va faire un certain nombre de courses et il leur dit qu'il va passer près de la grève. Il ne rentre pas la nuit. Et le lendemain, les enfants, la famille cherchent M. Angèle. On ne le trouve pas. Finalement, le dimanche, alors que les événements ont commencé le vendredi, ils réussissent à savoir qu'il est à la clinique Saint-Joseph. Ils vont le voir et il est tellement battu, déformé, qu'on ne le reconnaît pas. Et finalement, ils le reconnaissent à sa bague. Le visage est complètement déformé et tout. Et on les appelle pendant la nuit pour leur dire qu'il est décédé. Il est décédé le 28. Bon. Mais ils sont incapables de vous dire où leur père est enterré. Ils ne savent pas. De cérémonie, ils ne savent même pas s'il y en a eu. Et en fait, si vous voulez, bon, le père était le seul soutien familial. La mère était malade. Et on les répartit ainsi, un peu à droite à gauche. Et il me dit que lui, il n'a pas parlé de tout cela. Il n'en a pas parlé avec ses amis à l'école, il n'en a pas parlé, il a conservé ça. Et ce n'est que bien plus tard, quand ses enfants commencent à poser des questions, qu'il a senti la nécessité d'en parler. Cela vous donne une idée du traumatisme que cela peut avoir. Il ne peut pas en parler aujourd'hui encore sans pleurer.
Camarades, on va continuer à marcher en silence. Sans marcher à l'aliénage, à trois générations sacrifiées. Les premiers qui vont en tête entre 1801 et 1802. Deuxième en 1967. Et troisième là en 2009.
Merci à tous. Merci à Julien Merion, à Paul Tomich, à Pierre Luce. C'était un reportage avec Antoine Chao. Merci à David Clarin et Robert Dieupart de Radio Guadeloupe. Merci à Gérard Tourtrol. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. On continue demain sur ce même thème et on attend vos témoignages et vos commentaires. Renan Mahé et Sophie Moreno étaient à la technique aujourd'hui. Coye Nguyen et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission à cité de Charlotte Perry. Et Agnès Lebot attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis. Il est au 01 56 40 37 37. Il est 16h sur Inter. À demain, 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Boiset.